L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons de la...
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Divergence FM et vous vous apprêtez à écouter votre émission littéraire favorite, L'Épluche Libre, qui est, dois-je le rappeler, la seule, l'unique émission qui pose la littérature sur un bio pour vous préparer la meilleure bavette végane du quartier.
T'aimes les gâteaux, toi ?
Ah oui, mais uniquement les gros.
Les gros gâteaux.
Le G. Gaston goûte un gâteau garni de grains de groseille. Gaston se gave trop, Gaston sera très gras et gros.
Tendez l'oreille, chers auditeurs, car nous accueillons aujourd'hui une voix d'exception. Elisabeth Mas, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais très bien. En plus, je viens d'entendre Nino Ferrer, qui était mon voisin du village d'à côté.
C'est pas vrai. Incroyable. Elisabeth, vous êtes lectrice. C'est votre métier. Et personnellement, cela me fait rêver, hein, je dois vous avouer. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste ?
Alors, il consiste à faire entendre plusieurs voix, les voix d'auteurs, les voix des narrateurs, les voix de personnages en public. Donc, comme dans l'enfance, les gens s'installent et vont m'écouter lire pendant 45-50 minutes un texte, n'ont plus qu'à fermer les yeux et à se laisser porter.
Comment devient-on lectrice à voix haute ? Est-ce qu'il y a un parcours ? Est-ce qu'il y a des études, des galons à acquérir ?
Non, il n'y a pas de galons. Alors, d'abord, il y a le goût de la littérature. Il faut être passionné par cela, être une grande lectrice soi-même. Moi, j'ai fait ma première lecture il y a un peu plus de 30 ans, en Belgique, lorsque je vivais là-bas. Et on devient lectrice en ayant le goût de donner à entendre une histoire, en ayant envie de faire partager cette histoire aux gens et en ayant vraiment une conscience de la voix.
D'accord. Alors, une petite question toute impromptue. Vous ne lisez que des livres qui vous plaisent, je veux dire, dans votre métier ?
Dans mon métier, non, pas forcément.
Comment se passe cette sélection ? Est-ce que c'est de la lecture de commande ? Est-ce que c'est vous qui préparez une lecture un peu sous forme de lecture spectacle ? Quel est le quotidien, en fait, et l'organisation ?
Dans le quotidien, alors parfois il y a des lectures commande. Je ne serais absolument pas allée vers tel ou tel auteur, vers tel type de texte. En termes de préparation, tout comme pour un livre que l'on adore absolument, on va s'emparer de ce texte, le lire à plusieurs reprises dans son intégralité, j'insiste bien là-dessus. Il faut comprendre chaque mot, chaque silence de l'auteur aussi. Moi, je fais un travail supplémentaire qui est celui du découpage du texte. Le découpage, c'est faire en sorte de donner à entendre un maximum, traverser ce texte au maximum, sans le dénaturer évidemment, sans enlever la ponctuation ni quoi que ce soit, pour pouvoir donner beaucoup plus de l'histoire au public qui est là pour entendre. Et ensuite, ça se travaille comme une partition, je dirais. On prend ce texte une fois que l'on a un découpage, une traversée du texte. On prend ce texte, on le mâche, on le prend, on devient cette voix jusqu'à incarner réellement le texte. Il ne s'agit pas de l'interpréter comme en théâtre. Mm-hmm. En théâtre, il y a du mouvement, il y a... D'abord, en théâtre, on connaît par cœur chaque réplique, chaque instant du texte. En fait, il faut vraiment pouvoir l'incarner pour le donner à entendre, mais sans fioriture, sans une gestuelle, sans une scénographie, sans toutes ces petites choses. On est vraiment là sur une lecture à voix nue, totale. D'accord. J'ai pour habitude de les appeler les lectures à voix nue.
Donc, vous disparaissez finalement, vous, en tant qu'interprète, pour ne laisser, à travers votre voix, qui comme un instrument, s'exprimer le texte, comme si vous jouiez, vous le disiez, une partition. C'est bien ça, je reformule correctement ?
C'est exactement cela.
Très bien.
C'est ne pas être... c'est pour ça aussi que ces gens pourraient totalement fermer les yeux, ils le font parfois... Ce n'est pas la personne, le corps qui compte, même si parfois, effectivement, moi j'ai dans mes lectures les mains qui sont régulièrement en mouvement. mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le texte, la voix et toutes ces petites choses que sont des crescendos, des décrescendos, des silences. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça aussi une partition. Le texte devient partition.
Vous avez différentes approches, je suppose, suivant les textes, suivant si vous lisez un roman, enfin si vous incarnez un roman, de la poésie, ou si vous incarnez d'autres types de littérature, ou est-ce que c'est toujours des romans ?
Non, ce ne sont pas toujours des romans, non. Il y a aussi beaucoup de lectures de poésie, il y a eu des essais parfois, en réalité, on peut tout lire.
D'accord.
C'est ça qui est fabuleux avec la littérature. Après, c'est qu'est-ce que l'on en fait en tant qu'interprète, en tant que comédienne, pour faire en sorte que ce texte prenne vie. On est là pour lui donner vie encore plus que le livre lui-même. C'est pour ça que je parle d'incarnation.
Est-ce que vous avez déjà expérimenté tout ce qui est sieste littéraire ?
Tout ce qui est, pardon ?
Des siestes littéraires.
Oh oui.
En tant que lectrice ou en tant qu'auditrice ?
Les deux.
Les deux.
Les deux.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors moi j'en ai fait notamment il y a quelques années, c'était une commande pour Villeneuve-les-Maglones.
Oui.
Une résidence d'écriture et ensuite sur ces siestes littéraires, en fait, il y avait une déambulation pour le public au casque. Mmh. Ils entendaient complètement. Alors à l'époque, ça s'appelait des siestes littéraires, je vous parle d'un temps, il y a quasiment 20 ans, c'était les premières siestes littéraires.
D'accord.
En déambulation. Ce qui était très très agréable, puisque au détour d'une rue, subitement, il y avait un travail sonore avec des ingés sons qui étaient fabuleux. Les gens se plongeaient complètement dans un univers qui était lié au lieu.
Très bien. Et vous en retirez de beaux souvenirs professionnels, visiblement.
Professionnels, humains, et puis des sensations tout autres, puisque le texte devient vivant en fonction des lieux aussi.
D'accord.
Et de ce que l'on perçoit au creux de l'oreille.
Très bien. Quelle relation avez-vous avec les auteurs des textes que vous incarnez ?
Alors, mais ça va dépendre de la rencontre. Là, nous parlons bien d'auteurs. Là, je vais parler d'auteurs vivants. Il y a des auteurs avec qui c'est un coup de foudre immédiat d'humain à humain. Parce que le texte, m'a transporté, je l'ai fait mien. Parfois, c'est un texte qui m'a étonné, désarçonné, et pourtant, avec cet auteur, il se passe quelque chose de merveilleux. En général, la plupart des auteurs avec lesquels j'ai pu travailler ont apprécié, aimé entendre cette voix. J'ai de très très beaux souvenirs réellement avec des auteurs fabuleux, avec notamment un auteur, John Maxwell Coady, qui est un auteur sensationnel et qui était bouleversé par la lecture en disant que c'était cette voix-là. J'ai des auteurs qui sont devenus des amis. Et puis parfois, il y a aussi des auteurs qui ne sont plus. Et pourtant, ils font partie complètement de mes amis, de mon quotidien. Ils sont là avec moi. Je pense notamment, là je me retourne puisque je suis chez moi contre la bibliothèque. Marguerite est là. Oui. Je l'appelle Marguerite parce que c'est une amie du quotidien. Heureusement qu'elle est là. Je parle de Marguerite Duras. J'ai des auteurs qui m'accompagnent et qui seront toujours, toujours présents à mes côtés.
Et puisque nous en sommes à parler des auteurs, y a-t-il un titre que vous nous conseillez ou un titre du moins qui vous accompagne depuis de nombreuses années ?
Là, je peux parler d'un titre, d'un petit livre que j'affectionne tout particulièrement et que j'aime lire aussi en public, mais qui me semble essentiel de lire pour tout le monde. Je pense au message d'André Chédid. Parce qu'André Chédid est très important pour moi, parce que c'est une poétesse, c'est une grande humaine. Et je dis « c'est au présent » alors qu'elle n'est plus là. Le message est un livre totalement intemporel et pourtant date des débuts 2000, et on y parle de guerre, on y parle d'humanité. Et pourtant, si on le lit, je l'ai lu encore il y a quelques mois, si on le lit maintenant, il est encore totalement d'actualité. Et je pense que c'est bon de rappeler cette humanité aux gens, notamment en temps de guerre, et en ce moment, c'est ce qui se passe.
Tout à fait.
Une guerre un peu partout.
Oui, oui, oui. Dans l'esprit du temps, malheureusement. Oui. Donc, vous nous conseillez Le Message, écrit par André Chédid. C'est publié aux éditions Flammarion. Je pense que... La régie me dit qu'il reste encore une minute, donc on va en profiter. Quelles sont vos relations maintenant avec le public, avec vos auditeurs ?
Avec le public, j'ai en général une grande chance. J'ai une relation assez fabuleuse. C'est que un public qui vient écouter des lectures a réellement envie de cela, envie de se laisser porter.
Ils connaissent, c'est un prérequis un petit peu de savoir à quoi on va s'attendre en lecture à voix haute ou en sieste littéraire ?
Pas forcément. Certaines personnes qui n'ont jamais assisté à une lecture publique, parfois ils sont amenés vraiment par des amis, par une femme souvent. Ils assistent à ça et après, le problème pour eux, c'est qu'ils deviennent accros à cela. La lecture publique, être spectateur, auditeur de cela, c'est assez, assez troublant puisque on n'a pas l'image. Et pourtant, on voit les personnages si on se laisse porter. Donc j'ai vraiment une relation assez assez fabuleuse avec le public, puisque ils sont dans une écoute totale. On a régulièrement des silences quasi religieux, alors qu'il ne s'agit pas de ça du tout. Et puis il y a en général de très très belles discussions après, puisque J'aime assez ça, discuter après avec ce public des sensations, parler de littérature, et inévitablement ça nous amène sur la vie, sur cette vie, comment on vit les choses. C'est un rapport extraordinaire.
Bon, c'est merveilleux. Nous allons écouter maintenant un extrait de votre lecture du 27 septembre. Vous lisez le texte d'Arthur Dreyfus, édité aux éditions POL, intitulé La main.
Un jour, mon cadavre sera pareil aux autres cadavres. Ses secrets seront mangés par la terre, sa poussière rejoindra la poussière. Par ce journal en désordre, je veux dire ce qui fut aux hommes, mon cas étant perdu pour Dieu. J'aurais aimé avoir une autre vie. Enfance, elle fut heureuse, il paraît. Je n'y repêche aucun traumatisme d'envergure, ni carence de soupe ou de pain, ni certificat de martyr. Voilà pourquoi je puis qualifier d'heureuse mon enfance. À aucun moment, je ne me rappelle avoir désiré qu'elle fût autre. Elle était. C'était déjà beaucoup. J'avais ma mère, boussole, ce père éphémère, un édredon moelleux, j'apprenais mes leçons, j'allais à l'école, je mangeais à ma faim. Il y avait la maison, il y avait demain, il y avait nous, et c'était suffisant. Ma guerre, elle ne fut pas celle des autres. Elle fut le début et la fin de ma vie tranquille. Elle fut le début de ma fin. Mais commençons par des faits généraux. En premier lieu, nous vîmes débarquer dans Besançon, puis dans toute la Franche-Comté, des milliers d'Alsaciens lorrains fuyant la férule germanique. Une agitation gagna la ville que je n'avais jamais éprouvée et qui parut la sortir de son sommeil. Stop. Tous les garçons dignes de prétendre au sacro-saint statut d'homme s'évaporèrent du jour au lendemain. Des chapelets de soldats que j'avais aperçus jeunes au champ ou en classe de morale rejoignirent baluchon sur l'épaule un pays que les adultes nomment honneur ou patrie, que moi je nommerai pas. J'étais née trop près du siècle, en 1899. Je n'avais pas l'âge encore de donner ma vie. Cela aurait mieux valu. Je l'écris aujourd'hui. Qu'une balle de cuivre me transperce l'abdomen comme l'archiduc de Sarajevo, sans velours ni calèche, mais avant le désastre. Et n'ayant toutefois la possibilité ni de déserter ni de fuir, je suis restée. Mon père, lui, partit. C'était son habitude et ce devint sa destinée. Tout à l'école ne devint que guerre, guerre, guerre. Et à cause du bruit des canons qui semblaient se rapprocher chaque matin des confins de la ville, de la bise chargée de cendres ou de braconniers affamés prêts à giboyer toute viande, même les chats disparurent des rues. Je me trouvais définitivement seule. Puis le silence et celui surtout de ma mère qui, depuis la mort du père, avait troqué son espérance vague contre une ivresse avérée. Voir boire sa mère et n'y rien pouvoir faire est une sorte de torture parfaite. Un enfant ne veut pas que sa mère se détruise. Son état moral autant que physique le prévenait absolument de pratiquer le moindre métier. Se serait-elle proposée comme infirmière à l'hospice, on l'aurait admise comme patiente. Je suggérais donc ce jour-là de sacrifier la moitié de mon temps d'enseignement pour exercer un travail d'appoint qui nous permettrait de subsister. Ma mère s'y refusa. Il n'était pas question que je sacrifiasse mon avenir. Ce refus m'excita au vice. Je mentis pour la première fois de mon existence. Des quelques-unes qui m'employaient, la ferme vie main m'imposait les tâches les plus rudes. Le 4 juin 1915, ce jour-là, la bru Villemain m'expédia du côté de Noiron, d'où je devais ramener en urgence 3 bidons de mazout que l'on me remettrait en échange de 10 litres de lait. Je décampais sans demander mon reste, mettant le cap vers cette bourgade qui frisait l'une des plus vastes tranchées du département. Et à mesure que j'approchais de la zone, mes jambes sur les pédales se mirent à chanceler contre mon gré. Un parfum que je ne connaissais guère me chatouilla bientôt les narines avant de se convertir en franche sensation de brûlure. Mes yeux brûlaient aussi. Je dus m'arrêter sur le bord du chemin, sacrifiant une bouteille de lait pour les rincer. Et c'est ici qu'un bruit d'Armageddon, le plus colossal bruit de ma vie, retentit. Bombe, obus, mine. Le monde s'atomisa en mille fragments de kaléidoscope et je m'envolais très haut et m'écrasais à distance. Puis rien. Un grand lac noir vidé de son eau, un grand lac noir et au milieu du ventre, une incommensurable douleur. J'ai dû me croire mort avant de défaillir. Et si quelque espoir fou me fit entrevoir autre chose que la mort, ce fut sans doute de reprendre mes esprits sur un lit d'hôpital. Je ne me réveillais cependant point sur un lit d'hôpital. Malgré juin, il faisait frais. Trois murs grisâtres couleur chauve-souris délimitaient mon champ de vision. Aucune lumière ne s'immisçait dans l'espèce de cave où je me trouvais. Seule une chandelle plantée sur son bougeoir dessinait au plafond des ombres de lumière. J'avais mal partout, effroyablement mal, mais j'avais donc recouvré la vue. Et en profitant pour numéroter mes abatis, il apparut que l'accident dont j'ignorais encore tout ne m'avait coûté aucun bras ni aucune jambe. Ému, sans rien savoir pourtant de ce qui m'attendait, je m'avisais qu'il me serait possible un jour de remarcher. Je tâchais bientôt de reconstituer le récit de mes blessures plongées dans des vapes abstraites, à mi-chemin entre lucidité et égarement. La guerre, cette guerre dans laquelle nous macérions tous depuis un an, cette lie des hommes qui avaient balayé mon père, voici que j'étais tombée dans sa gueule à mon tour. J'avais caressé de trop près ses moustaches, joué à mon corps défendant avec son feu, et désormais j'en payais le prix le plus lourd. Mais où diable m'avait-on mis? Où était ma mère? Et pourquoi ces câbles, ces tubulures, ces pipettes insolites et multicolores autour de ma couche s'enfonçant sous un drap vers mes entrailles, me prévenant d'effectuer le moindre geste? Brouillard toujours, incertitude, quelques heures supplémentaires de solitude, puis le contour d'une silhouette s'esquissant dans l'ombre. Cette silhouette, s'approchant assez près de moi pour entrevoir mes paupières ouvertes, mon visage, détaillant le sien, semblant à la fois masculin et féminin. L'instant d'après, une voix, d'aspect elle aussi hermaphrodite, je veux dire omettant du timbre des deux sexes. Et cette phrase, amen, alléluia, notre Jésus est ressuscité. Si c'était de l'humour, j'étais trop défaillant pour l'apprécier. Si c'était un mot sérieux, il y avait de quoi blêmir. Je m'étais imaginé bien des rôles, nullement celui de prophète. D'autant que ma destinée mythique n'occupait peu au regard du supplice de douleur qui me rongeait le ventre et se dépliait de minute en minute. La morphine devait s'être tarie dans mes canules, j'avais cruellement besoin d'une nouvelle dose et je parvins par miracle à l'exprimer du bout des lèvres. Une main experte aux ongles teintés de rouge ouvrit une fiole et y planta une seringue injectée dans un tuyau vraisemblablement raccordé à ma physiologie, puisque la douleur retomba sans délai. Je vis toutefois s'évanouir du même pas mes facultés cognitives. La vapeur s'épaissit, le monde redevint charbonneux. Arrêt. Étourdi par des images familières ou fantasques, je saisis, malgré cet état de demi-conscience, que la chimie qui lénifiait mes souffrances m'excitait aussi à délirer, du moins fallait-il l'espérer. Car ce que mes yeux discernèrent, lorsque la main aux ongles rouges souleva le drap qui reposait sur mon corps, ne détonnait guère avec les pires représentations de l'enfer. Voyez, une main, ou plutôt un bras, quasi entier, velu comme celui d'un père, paraissait sourdre de mon estomac à l'emplacement du nombril. Un ourlet de peau rosâtre, luisante et potelée, enserrant cette liaison d'aspect déjà mature, cette main et le bras qui s'y rattachait, reposait tout le long de ma panse, jusqu'au prélude des genoux, et ne m'appartenait assurément pas. J'eus envie de glapir, mais l'épuisement remporta cette première manche. Et tout athée que j'étais, je pris congé du réel en priant que cette vision démoniaque me fût inspirée sans restriction par la pharmacopée de mon mystérieux soigneur, Camille Gottschalk. J'appris, lorsque je fus en mesure de tenir un semblant de conversation, que j'avais été sauvée et soignée durant 4 semaines par un thérapeute nommé Camille Gottschalk. Mais un nom n'est pas tout. Notre premier entretien avec Gottschalk me fournit nombre d'informations. Crédule de nature, je ne les mis d'abord guère en doute. Ce scientifique d'origine suisse s'était prétendument établi en France peu avant la guerre pour se rapprocher de son confrère Étienne Jaboulet, chef des travaux d'anatomie de l'hôpital de Beaune, lequel avait réalisé en 1906 la première greffe homme-animal transplantant un rein de chèvre au pli du coude d'une jeune patiente atteinte d'insuffisance rénale chronique. Et dès les prémices de sa vocation, Gottschalk avait présagé que la médecine deviendrait moderne le jour où les hommes sauraient transplanter les organes d'un individu vers l'autre. Tant de cadavres emportent sous terre des trésors de création, se lamentait-il, rêvant à voix haute que ces morts inutiles rachètent des vies utiles. J'étais entre les mains d'un fou, mais un fou sagace. Tant il est vrai que le toquet moyen possède davantage de ressources que l'homme de la rue. Au demeurant, Gottschalk touchait sa bille en matière de greffe, du moins s'avéra capable à peu de frais d'esbrouffer le néophyte alité que j'étais. Tout était à faire, selon lui, d'antigènes et d'anticorps. Ce cul de basse fosse dans lequel j'étais reclus en cobaye, je doutais fort que la moindre autre personne que Gottschalk en connût même l'existence. Je dis « cobaye », car c'était ma fonction. Inutile de tirer les cartes pour saisir que mon geôlier exprimait sur ma pauvre carcasse ses théories sur le rejet cellulaire, m'utilisant tel un banal pommier sur le tronc duquel on eût repiqué le greffon d'une autre variété de fruits. Dès que l'amélioration de mon état physique me permit de penser à autre chose qu'à la douleur, je m'employai à imaginer le meilleur moyen de me soustraire à la férule de Gottschalk. Le plan d'action était celui-ci: reprendre suffisamment de force à l'insu de Gottschalk, feindre d'ingurgiter les gélules anesthésiantes qu'il m'administrait, mais les expulser en tapinois, dire oui à tout et converser le moins possible, car on ne raisonne pas un fou. Ensuite, rejoindre le dispensaire le plus proche, me faire ausculter par de véritables hommes de science, dissocier de moi cette abominable greffe et y survivre, si Dieu le voulait. Combien de temps étais-je demeuré captif de Gottschalk et de sa cave? Une semaine? 2 semaines? Davantage? Un matin, toutefois, je me sentis en capacité de mettre à exécution mon projet de fuite. Je n'étais point rétabli de fond en comble, mais je pouvais tenir debout. Ainsi, la nuit escomptée s'imposa d'elle-même. Il suffisait d'attendre. Peu après minuit, m'étant dégagé de mes nasses curatives, je posais le pied au sol et progressais vers l'escalier. Tout se passait comme prévu, jusqu'à cette voix surgit de nulle part, qui me fit bondir d'effroi. « Où va-t-il donc, mon petit Jésus ?» Je me réveillais dans le même lit et dans la même cave. Et je ne me souvenais de rien. La situation était désormais plus pénible qu'avant ma tentative d'évasion. Je m'en rendis compte en soulevant le drap de laine qui couvrait mon corps. En tentant de soulever. Car mes poignets rencontrèrent dans leur élan naturel une force contraire imposée par deux bracelets de cuir arrimés aux barreaux de mon lit. Allais-je terminer ma vie allongée dans un sous-sol à la merci d'un détraqué si Gottschalk n'apparut point de la journée. Vers minuit de recherche, quelque chose de bien plus imprévisible se produisit.
Merci beaucoup, Elisabeth. Merci de votre présence à distance, mais surtout d'avoir offert votre voix et d'avoir prêté votre voix au jeu de cette petite émission radio.
Mais je vous en prie.
Comment, si on veut travailler avec vous, si on veut vous contacter, comment ça se passe?
Alors, si on veut travailler avec moi, me contacter, c'est assez simple. On peut tout à fait aller, alors je suis d'une ancienne génération, on peut tout à fait aller sur Facebook pour me contacter, pour mettre en place une lecture publique, un atelier de lecture à voix haute aussi, puisque les gens sont assez friands de cela. Mmh. Donc on me recherche Elisabeth Mass et en général on me trouve.
Merveilleux.
Avec grand plaisir.
C'est super. Nous clôturons donc cette émission et comme on déguste les dernières bouchées d'un gâteau, je remercie grandement la radio et notre invité. À très bientôt, chers auditeurs.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre.